Sodome et Gomorre, deuxième partie, chapitre 2, suite 5. On doit être toujours sans nouvelles du violoniste, dit Cottard. L'événement du jour, dans le petit clan, était en effet le lâchage du violoniste favori de Madame Verdurin. Celui-ci, qui faisait son service militaire près de Doncières, venait trois fois par semaine dîner à la Raspelière, car il avait la permission de minuit. Or, l'avant-veille, pour la première fois, les fidèles n'avaient pu arriver à le découvrir dans le tram. On avait supposé qu'il l'avait manqué. Mais Madame Verdurin avait eu beau envoyer au tram suivant, enfin au dernier, la voiture était revenue vide.
« Il a été sûrement fourré au bloc. Il n'y a pas d'autre explication de sa fugue. »«
Ah, dame, vous savez, dans le métier militaire, avec ces gaillards-là, il suffit d'un adjudant grincheux. »
« Ce sera d'autant plus mortifiant pour Madame Verdurin, » dit Brichot, « s'il lâche encore ce soir, que notre aimable hôtesse reçoit justement à dîner pour la première fois les voisins qui lui ont loué la Raspelière, la marquise et le marquis de Cambremer. »«
Ce soir, le marquis et la marquise de Cambremer ?» s'écria Cottard. « Mais je n'en savais absolument rien !» « Naturellement, je savais, comme vous tous, qu'il devait venir un jour. Mais je ne savais pas que ce fût si proche.
« Sapristi ! » dit-il en se tournant vers moi. « Qu'est-ce que je vous ai dit ? La princesse Cherbatov, le marquis et la marquise de Cambremer. » Et après avoir répété ces noms en se berçant de leur mélodie,
« Vous voyez que nous nous mettons bien, » me dit-il.
« N'importe, pour vos débuts, vous mettez dans le mille. Cela va être une chambrée exceptionnellement brillante. »
Et se tournant vers Brichot, il ajouta,
« La patronne doit être furieuse. Il n'est que temps que nous arrivions lui prêter main forte. »
Depuis que Madame Verdurin était à la Raspelière, elle affectait vis-à-vis des fidèles d'être, en effet, dans l'obligation et au désespoir d'inviter une fois ses propriétaires. Elle aurait ainsi de meilleures conditions pour l'année suivante, disait-elle, et ne le faisait que par intérêt. Mais elle prétendait avoir une telle terreur, se faire un tel monstre d'un dîner avec des gens qui n'étaient pas du petit groupe, qu'elle le remettait toujours. Il l'effrayait du reste, un peu pour les motifs qu'elle proclamait, tout en les exagérant, si par un autre côté, il l'enchantait pour des raisons de snobisme qu'elle préférait taire. Elle était donc à demi sincère. Elle croyait le petit clan quelque chose de si unique au monde, un de ces ensembles comme il faut des siècles pour en constituer un pareil, qu'elle tremblait à la pensée d'y voir introduit ces gens de province, ignorant de la tétralogie et des maîtres, qui ne sauraient pas tenir leur parti dans le concert de la conversation générale, et étaient capables, en venant chez Madame Verdurin, de détruire un des fameux mercredis, chefs-d'œuvre incomparables et fragiles, pareils à ces verreries de Venise, qu'une fausse note suffit à briser.
De plus, ils doivent être tout ce qu'il y a de plus anti et galonnard, avait dit Monsieur Verdurin.
« Ah ça, par exemple, ça m'est égal. Voilà assez longtemps qu'on en parle de cette histoire-là. » avait répondu Madame Verdurin, qui, sincèrement dreyfusarde, eut cependant voulu trouver dans la prépondérance de son salon dreyfusiste une récompense mondaine. Or, le dreyfusisme triomphait politiquement, mais non pas mondainement. Laborie, Rénac, Picard, Zola restaient, pour les gens du monde, des espèces de traîtres qui ne pouvaient que les éloigner du petit noyau. Aussi, après cette incursion dans la politique, Madame Verdurin tenait-elle à rentrer dans l'art. D'ailleurs, d'Indy, Debussy, n'était-il pas mal dans l'affaire ? Pour ce qui est de l'affaire, nous n'aurions qu'à les mettre à côté de Brichot, dit-elle. L'universitaire étant le seul des fidèles qui avait pris le parti de l'état-major, ce qui l'avait fait beaucoup baisser dans l'estime de Madame Verdurin. On n'est pas obligé de parler éternellement de l'affaire Dreyfus. Non, la vérité, c'est que les Cambremer m'embêtent. Quant aux fidèles, aussi excités par le désir inavoué qu'ils avaient de connaître les Cambremer, que dupes de l'ennui affecté que Madame Verdurin disait éprouver à les recevoir, ils reprenaient chaque jour, en causant avec elle, les vils arguments qu'elle donnait elle-même en faveur de cette invitation, tâchaient de les rendre irrésistibles.
« Décidez-vous une bonne fois, répétait Cottard, et vous aurez les concessions pour le loyer. Ce sont eux qui paieront le jardinier, vous aurez la jouissance du pré. Tout cela vaut bien de s'ennuyer une soirée. Je n'en parle que pour vous. »
ajoutait-il, bien que le cœur lui eût battu une fois que, dans la voiture de Madame Verdurin, il avait croisé celle de la vieille Madame de Cambremer sur la route, et surtout qu'il fut humilié par les employés du chemin de fer quand, à la gare, il se trouvait près du marquis. De leur côté, les Cambremer, vivant bien trop loin du mouvement mondain pour pouvoir même se douter que certaines femmes élégantes parlaient avec quelque considération de Madame Verdurin, s'imaginaient que celle-ci était une personne qui ne pouvait connaître que des bohèmes, n'était même peut-être pas légitimement mariée, et, en fait de gens nés, ne verrait jamais qu'eux. Il ne s'était résigné à y dîner que pour être en bon terme avec une locataire dont ils espéraient le retour pour de nombreuses saisons, surtout depuis qu'ils avaient, le mois précédent, appris qu'elle venait d'hériter de tant de millions. C'est en silence et sans plaisanterie de mauvais goût qu'ils se préparaient au jour fatal. Les fidèles n'espéraient plus qu'il vînt jamais. Tant de fois Madame Verdurin en avait déjà fixé devant eux la date, toujours changée. Ces fausses résolutions avaient pour but non seulement de faire ostentation de l'ennui que lui causait ce dîner, mais de tenir en haleine les membres du petit groupe qui habitaient dans le voisinage et étaient parfois enclins à lâcher. Non que la patronne devinât que le « grand jour » leur était aussi agréable qu'à elle-même, mais parce que, les ayant persuadés que ce dîner était pour elle la plus terrible des corvées, elle pouvait faire appel à leur dévouement. « Vous n'allez pas me laisser seule en tête-à-tête avec ces Chinois-là. Il faut au contraire que nous soyons en nombre pour supporter l'ennui. Naturellement, nous ne pourrons parler de rien de ce qui nous intéresse. Ce sera un mercredi de raté, que voulez-vous ?»«
En effet, » répondit Brichot en s'adressant à moi, « je crois que Madame Verdurin, qui est très intelligente et apporte une grande coquetterie à l'élaboration de ses mercredis, ne tenait guère à recevoir ses hauts bureaux de grande lignée, mais sans esprit. Elle n'a pu se résoudre à inviter la marquise Douairière, mais s'est résignée au fils et à la belle-fille.
« Ah, nous verrons la marquise de Cambremer !» dit Cottard avec un sourire où il crut devoir mettre de la paillardise et du marivaudage, bien qu'il ignorât si Madame de Cambremer était jolie ou non. Mais le titre de marquise éveillait en lui des images prestigieuses et galantes. « Ah, je la connais !» dit Ski, qu'il avait rencontré une fois qu'il se promenait avec Madame Verdurin.
« Vous ne la connaissez pas au sens biblique ?» dit, en coulant un regard louche sous son lorgnon, le docteur, dont c'était une des plaisanteries favorites. « Elle est intelligente, » me dit Ski. « Naturellement, » reprit-il en voyant que je ne disais rien et appuyant en souriant sur chaque mot, « elle est intelligente et elle ne l'est pas. Il lui manque l'instruction, elle est frivole, mais elle a l'instinct des jolies choses. Elle se taira, mais elle ne dira jamais une bêtise.
Et puis, elle est d'une jolie coloration. Ce serait un portrait qui serait amusant à peindre. » ajouta-t-il en fermant à demi les yeux, comme s'il la regardait, posant devant lui. Comme je pensais tout le contraire de ce que Ski exprimait avec tant de nuances, je me contentais de dire qu'elle était la sœur d'un ingénieur très distingué, M. Legrandin. « Eh bien, vous voyez, vous serez présenté à une jolie femme, » me dit Brichot, « et on ne sait jamais ce qui peut en résulter. Cléopâtre n'était même pas une grande dame, c'était la petite femme inconsciente et terrible de notre Meillac. Et voyez les conséquences, non seulement pour ce jobard d'Antoine, mais pour le monde antique. » « J'ai été présentée à Madame de Cambremer, » répondis-je. « Ah, mais alors vous allez vous trouver en pays de connaissance !»« Je serai d'autant plus heureux de la voir, » répondis-je, « qu'elle m'avait promis un ouvrage de l'ancien curé de Combray sur les noms de lieux de cette région-ci, et je vais pouvoir lui rappeler sa promesse. Je m'intéresse à ce prêtre, et aussi aux étymologies. » « Ne vous fiez pas trop à celle qu'il indique, » me répondit Brichot. « L'ouvrage qui est à la Raspelière et que je me suis amusé à feuilleter ne me dit rien qui vaille. Il fourmille d'erreurs. Je vais vous en donner un exemple. Le mot « brique » entre dans la formation d'une quantité de noms de lieux de nos environs. Le brave ecclésiastique a eu l'idée passablement biscornue qu'il vient de « briga », hauteur, lieu fortifié. Il le voit déjà dans les peuplades celtiques, Latobrige, Némétobrige, etc. Et le suit jusque dans les noms comme Brillant, Brillon, etc. Pour en revenir au pays que nous avons le plaisir de traverser en ce moment avec vous, Briquebosque signifierait le bois de la hauteur, Briqueville, l'habitation de la hauteur, Briquebec, où nous nous arrêterons dans un instant avant d'arriver à Menneville, la hauteur près du ruisseau. Or, ce n'est pas du tout cela, pour la raison que « brique » est le vieux mot norrois qui signifie tout simplement « un pont ». De même que « fleur », que le protégé de Madame de Cambremer se donne une peine infinie pour rattacher tantôt au mot scandinave « floie », tantôt au mot irlandais « ae » et « aer », est au contraire, à n'en point douter, le fjord des Danois et signifie « port ». De même, l'excellent prêtre croit que la station de Saint-Martin-le-Vêtu, qui avoisine la Raspelière, signifie « Saint-Martin-le-Vieux, vêtu ». Il est certain que le mot de « vieux » a joué un grand rôle dans la toponymie de cette région. Vieux vient généralement de vadum et signifie un gué, comme au lieu dit les vieux. C'est ce que les Anglais appelaient Ford, Oxford, Hereford. Mais dans le cas particulier, vieux vient non pas de vetus, mais de vastatus, lieu dévasté et nu. Vous avez près d'ici Sotvast, le vaste de Sotold, Brievast, le vaste de Bérold. Je suis d'autant plus certain de l'erreur du curé que Saint-Martin-le-Vieux s'est appelé autrefois Saint-Martin-du-Gast et même Saint-Martin-de-Tergat. Or, le V et le G dans ces mots sont la même lettre. On dit « dévasté » mais aussi « gâché ».« Jachère » et « gâtine » du haut allemand « wastina » ont ce même sens. Tergat, c'est donc terra vastata. Quant à Saint-Mars, jadis, on y soit qui mal y pense, Saint-Merde, c'est Saint-Médardus, qui est tantôt Saint-Médard, Saint-Marc, Saint-Marc, Saint-Mars, et jusqu'à Damas. Il ne faut du reste pas oublier que, tout près d'ici, des lieux portant ce même nom de Mars atteste simplement une origine païenne, le dieu Mars, resté vivace en ce pays, mais que le saint homme se refuse à reconnaître.
les hauteurs dédiées aux dieux sont en particulier fort nombreuses, comme la montagne de Jupiter, Jeumont. Votre curé n'en veut rien voir. Et, en revanche, partout où le christianisme a laissé des traces, elle lui échappe. Il a poussé son voyage jusqu'à l'Octudie, nom barbare, dit-il, alors que c'est Locus Sancti Tudini, et n'a pas davantage dans Samarsol deviné Sanctus Martialis. Votre curé, continua Brichot en voyant qu'il m'intéressait, fait venir les mots en on, hom, holm, du mot hol, houlous, colline, alors qu'il vient du norrois holm, île, que vous connaissez bien dans Stockholm, et qui, dans tout ce pays-ci, est si répandu, la ulm. Angohom, Taum, Robhom, Neom, Ketehon, etc. Ces noms me firent penser au jour où Albertine avait voulu aller à Ambrefil-Labigaud, du nom de deux de ses seigneurs successifs, me dit Brichot, et où elle m'avait ensuite proposé de dîner ensemble à Robhom. Quant à Montmartin, nous allions y passer dans un instant. « Est-ce que Neom, demandai-je, n'est pas près de Carquetuit et de Clitourps ?»« Parfaitement. Neom, c'est le holm, l'île, ou presqu'île, du fameux vicomte Nigel, dont le nom est resté aussi dans Neville. Carquetuit et Clitourps, dont vous me parlez, sont, pour le protégé de Madame Cambremer, l'occasion d'autres erreurs. Sans doute, il voit bien que Carc, c'est une église, la kirche des Allemands. Vous connaissez Kerqueville, sans parler de Dunkerque, car mieux vaudrait alors nous arrêter à ce fameux mot de « dun » qui, pour les Celtes, signifiait une élévation. Et cela, vous le retrouverez dans toute la France. Votre abbé, s'hypnotisé devant Duneville, repris dans l'Eure-et-Loire, il eût trouvé Châteaudun, Donne le roi dans le Cher, Duneau dans la Sarthe, Dun dans l'Ariège, Dun les places dans la Nièvre, etc., etc. Ce Dun lui fait commettre une curieuse erreur en ce qui concerne Deauville, où nous descendrons et où nous attendent les confortables voitures de Madame Verdurin. Deauville, en latin Don Villa, dit-il. En effet, Deauville est au pied de grande hauteur. Votre curé, qui sait tout, sent tout de même qu'il a fait une bévue. Il a lu, en effet, dans un ancien fouillé d'homme villa. Alors il se rétracte. Deauville, selon lui, est un fief de l'abbé, Domino Abati, du Mont-Saint-Michel. Il s'en réjouit, ce qui est assez bizarre quand on pense à la vie scandaleuse que, depuis le capitulaire de Saint-Clair sur Epte, on menait au Mont-Saint-Michel. Et ce qui ne serait pas plus extraordinaire que de voir le roi de Danemark suzerain de toute cette côte, où il faisait célébrer beaucoup plus le culte d'Odin que celui du Christ. D'autre part, la supposition que le N a été changé en M ne me choque pas et exige moins d'altération que le très correct Lyon, qui, lui aussi, vient de Dun Lugdunum. Mais enfin, l'abbé se trompe. Deauville n'a jamais été Deauville, mais Deauville. Eudonis Villa, le village d'Eude. Deauville s'appelait autrefois Escalaclif, l'escalier de la pente. Vers 1233, Eudes le Bouteiller, seigneur d'Escalaclif, partit pour la Terre Sainte. Au moment de partir, il fit remise de l'église à l'abbaye de Blanchelange. Échange de bons procédés, le village prit son nom, d'où actuellement Deauville. Mais j'ajoute que la toponymie, où je suis d'ailleurs fort ignare, n'est pas une science exacte. Si nous n'avions ce témoignage historique, Deauville pourrait fort bien venir Deauville, c'est-à-dire les eaux. Les formes en « e »,« ai », aigue morte. De « à quoi » se change fort souvent en « e », « eu », en « ou », « ou ». Or, il y avait tout près de Douville des eaux renommées, Carquebutte. Vous pensez que le curé était trop content de trouver là quelques traces chrétiennes. Encore que ce pays semble avoir été assez difficile à évangéliser, puisqu'il a fallu que s'y reprissent successivement Saint-Ursale, Saint-Gaufroy, Saint-Barsanor, Saint-Laurent de Brèvedent, lequel passa enfin la main aux moines de Beaubec. Mais pour Tuit, l'auteur se trompe. Il y voit une forme de toft, masure, comme dans Criquetot, Ecto, Yvetot, alors que c'est le Tweet et Sarthe, défrichement, comme dans Braquetuit, Le Tuit, Regnetuit, etc. De même, s'il reconnaît dans Clitourps le torp normand, qui veut dire village, il veut que la première partie du nom dérive de clivus, pente, alors qu'elle vient de cliff, rocher. Mais ses plus grosses bévues viennent moins de son ignorance que de ses préjugés. Si bon français qu'on soit, faut-il nier l'évidence et prendre Saint-Laurent en Bray pour le prêtre romain si connu, alors qu'il s'agit de Saint-Laurent Stout, archevêque de Dublin? Mais plus que le sentiment patriotique, le parti pris religieux de votre ami lui fait commettre des erreurs grossières. Ainsi, vous avez non loin de chez nos hôtes de la Raspelière deux Montmartin, Montmartin-sur-Mer et Montmartin en Graigne. Pour Graigne, le bon curé n'a pas commis d'erreur. Il a bien vu que Graigne, en latin grania, en grec grainé, signifie étang, marais. Combien de Crémets, de Croins, de Grémeville, de Langrone ne pourrait-on pas citer? Mais pour Montmartin, votre prétendu linguiste veut absolument qu'il s'agisse de paroisses dédiées à Saint-Martin. Il s'autorise de ce que le saint est leur patron, mais ne se rend pas compte qu'il n'a été pris pour tel qu'après coup. Ou plutôt, il est aveuglé par sa haine du paganisme. Il ne veut pas voir qu'on aurait dit Mont-Saint-Martin comme on dit le Mont-Saint-Michel, s'il s'était agi de Saint-Martin, tandis que le nom de Montmartin s'applique, de façon beaucoup plus païenne, à des temples consacrés au dieu Mars, temples dont nous ne possédons pas, il est vrai, d'autres vestiges, mais que la présence incontestée dans le voisinage de vastes camps romains rendrait des plus vraisemblables, même sans le nom de Montmartin qui tranche le doute. Vous voyez que le petit livre que vous allez trouver à la Raspelière n'est pas des mieux faits. J'objectais qu'à Combray, le curé nous avait appris souvent des étymologies intéressantes. Il était probablement mieux sur son terrain. Le voyage en Normandie l'aura dépaysé. Et ne l'aura pas guéri, ajoutai-je, car il était arrivé neurasthénique et est reparti rhumatisant. Ah, oh, c'est la faute à la neurasthénie. Il est tombé de la neurasthénie dans la philologie, comme eût dit mon bon maître Poquelin. Dites donc, Cottard, vous semble-t-il que la neurasthénie puisse avoir une influence fâcheuse sur la philologie une influence calmante sur la neurasthénie, et la guérison de la neurasthénie conduire au rhumatisme? Parfaitement. Le rhumatisme et la neurasthénie sont deux formes vicariantes du neuroarthritisme. On peut passer de l'une à l'autre par métastase. L'éminent professeur, dit Brichot, s'exprime, Dieu me pardonne, dans un français aussi mêlé de latin et de grec qu'eût pu le faire M. Purgon lui-même, de moliéresque mémoire. À moi, mon oncle, je veux dire notre sarcée nationale. Mais il ne put achever sa phrase. le professeur venait de sursauter et de pousser un hurlement.
« Nom de d'là ! »
s'écria-t-il en passant enfin au langage articulé. « Nous avons passé Manneville !
Hé hé ! Et même Renneville !»
Il venait de voir que le train s'arrêtait à Saint-Mars-le-Vieux, où presque tous les voyageurs descendaient.
« Ils n'ont pas dû pourtant brûler l'arrêt. Nous n'aurons pas fait attention en parlant des Cambremers. »
« Écoutez-moi, Ski, attendez, je vais vous dire une bonne chose. » Dit Cottard, qui avait pris en affection cette expression usitée dans certains milieux médicaux. « La princesse doit être dans le train. Elle ne nous aura pas vus et sera montée dans un autre compartiment. Allons à sa recherche. Pourvu que tout cela n'aille pas amener de grabuge. » Et il nous emmena tous à la recherche de la princesse Sherbatov. Il la trouva dans le coin d'un wagon vide, en train de lire la revue des deux mondes. Elle avait pris depuis de longues années, par peur des rebuffades, l'habitude de se tenir à sa place, de rester dans son coin, dans la vie comme dans le train, et d'attendre, pour donner la main, qu'on lui eût dit bonjour. Elle continua à lire quand les fidèles entrèrent dans son wagon. Je la reconnus aussitôt. Cette femme, qui pouvait avoir perdu sa situation, mais n'en était pas moins d'une grande naissance, qui en tout cas était la perle d'un salon comme celui des Verdurin, c'était la dame que, dans le même train, j'avais cru l'avant-veille pouvoir être une tenancière de maison publique. Sa personnalité sociale, si incertaine, me devint claire aussitôt quand je sus son nom, comme quand, après avoir peiné sur une devinette, on apprend enfin le mot qui rend clair tout ce qui était resté obscur, et qui, pour les personnes, est le nom. Apprendre le surlendemain, quelle était la personne à côté de qui on a voyagé dans le train sans parvenir à trouver son rang social, est une surprise beaucoup plus amusante que de lire dans la livraison nouvelle d'une revue le mot de l'énigme proposé dans la précédente livraison. Les grands restaurants, les casinos, les tortillards sont le musée des familles de ces énigmes sociales. « Princesse, nous vous aurons manqué à Manneville. Vous permettez que nous prenions place dans votre compartiment ?»«
Mais comment donc ?»
fit la princesse qui, en entendant Cottard lui parler, leva seulement alors de sur sa revue des yeux qui, comme ceux de M. de Charlus, quoique plus doux, voyaient très bien les personnes de la présence de qui elle faisait semblant de ne pas s'apercevoir. Cottard, réfléchissant à ce que le fait d'être invité avec les Cambremers était pour moi une recommandation suffisante, prit, au bout d'un moment, la décision de me présenter à la princesse, laquelle s'inclina avec une grande politesse, mais eut l'air d'entendre mon nom pour la première fois.
« Crénom ! » s'écria le docteur. « Ma femme a oublié de faire changer les boutons de mon gilet blanc. » « Ah, les femmes, ça ne pense à rien. Ne vous mariez jamais, voyez-vous » me dit-il.
Et comme c'était une des plaisanteries qu'il jugeait convenable quand on n'avait rien à dire, il regarda du coin de l'œil la princesse et les autres fidèles, qui, parce qu'il était professeur et académicien, sourirent en admirant sa bonne humeur et son absence de morgue. La princesse nous apprit que le jeune violoniste était retrouvé. Il avait gardé le lit la veille à cause d'une migraine, mais viendrait ce soir et amènerait un vieil ami de son père qu'il avait retrouvé à Doncières. Elle l'avait su par Madame Verdurin, avec qui elle avait déjeuné le matin, nous dit-elle d'une voix rapide, où le roulement des R, de l'accent russe, était doucement marmonné au fond de la gorge, comme si c'était non des R, mais des L.
Ah, vous avez déjeuné ce matin avec elle, dit Cottard à la princesse.
Mais en me regardant, car ses paroles avaient pour but de me montrer combien la princesse était intime avec la patronne. Vous êtes une fidèle, vous.
Oui, j'aime ce petit cercle intelligent, agréable, pas méchant, tout simple, pas snob, et où on a de l'esprit jusqu'au bout des ongles.
Nom d'une pipe, j'ai dû perdre mon billet, je ne le retrouve pas,
s'écria Cottard, sans s'inquiéter d'ailleurs outre mesure. Il savait qu'à Douville, où deux landaus allaient nous attendre, l'employé le laisserait passer sans billet, et ne s'en découvrirait que plus bas, afin de donner, par ce salut, l'explication de son indulgence. À savoir qu'il avait bien reconnu en Cottard un habitué des Verdurin.
« On ne me mettra pas à la salle de police pour cela, » conclut le docteur.
« Vous disiez, monsieur, » demandai-je à Brichot, « qu'il y avait près d'ici des eaux renommées. Comment le sait-on ?»«
Le nom de la station suivante l'atteste, entre bien d'autres témoignages. Elle s'appelle Fervache. »«
Je ne comprends pas ce qu'il veut dire. » grommela la princesse d'un ton dont elle m'aurait dit par gentillesse.
« Il nous embête, n'est-ce pas ?»«
Mais, princesse, faire vache veut dire eau chaude, faire vidae à quoi.
Mais à propos du jeune violoniste, » continua Brichot, « j'oubliais, Cottard, de vous parler de la grande nouvelle. Saviez-vous que notre pauvre ami de chambre, l'ancien pianiste favori de Madame Verdurin, vient de mourir? C'est effrayant.
Il était encore jeune, répondit Cottard.
Mais il devait faire quelque chose du côté du foie. Il devait avoir quelque saleté de ce côté. Il avait une fichue tête depuis quelque temps.
Mais il n'était pas si jeune, dit Brichot.
Du temps où Elstir et Swann allaient chez Madame Verdurin, De Chambre était déjà une notoriété parisienne, et, chose admirable, sans avoir reçu à l'étranger le baptême du succès. Ah, il n'était pas un adepte de l'Évangile selon saint Barnum, celui-là.
Vous confondez. Il ne pouvait aller chez Madame Verdurin à ce moment-là. Il était encore en nourrice.
Mais, à moins que ma vieille mémoire ne soit infidèle, il me semblait que De Chambre jouait la sonate de Vinteuil pour Swann, quand ce cercleux en rupture d'aristocratie ne se doutait guère qu'il serait un jour le prince consort en bourgeoisie de notre odette nationale.
C'est impossible! La sonate de Vinteuil a été jouée chez Madame Verdurin longtemps après que Swann n'y allait plus, dit le docteur, qui, comme les gens qui travaillent beaucoup, et croit retenir beaucoup de choses qu'ils se figurent être utiles, en oublie beaucoup d'autres, ce qui leur permet de s'extasier devant la mémoire de gens qui n'ont rien à faire.
Vous faites tort à vos connaissances, vous n'êtes pourtant pas ramolli,
dit en souriant le docteur. Brichot convint de son erreur. Le train s'arrêta, c'était la Sogne. Ce nom m'intriguait. « Comme j'aimerais savoir ce que veulent dire tous ces noms, » dis-je à Cottard.
« Mais demandez à M. Brichot, il le sait peut-être. »«
Mais la Sogne, c'est la cigogne, cicogna, » répondit Brichot, que je brûlais d'interroger sur bien d'autres noms. Oubliant qu'elle tenait à son coin, Madame Cherbatoff m'offrit aimablement de changer de place avec moi pour que je puisse mieux causer avec Brichot, à qui je voulais demander d'autres étymologies qui m'intéressaient. Et elle assura qu'il lui était indifférent de voyager en avant, en arrière, debout, etc. Elle restait sur la défensive, tant qu'elle ignorait les intentions des nouveaux venus. Mais quand elle avait reconnu que celle-ci était aimable, elle cherchait de toute manière à faire plaisir à chacun. Enfin, le train s'arrêta à la station de Deauville-Féterne, laquelle étant située à peu près à égale distance du village de Féterne et de celui de Deauville, portait, à cause de cette particularité, leurs deux noms.
« Saperlipopette !»
s'écria le docteur Cottard, quand nous fûmes devant la barrière où on prenait les billets, et feignant seulement de s'en apercevoir.
« Je ne peux pas retrouver mon ticket !»
J'ai dû le perdre !» Mais l'employé, ôtant sa casquette, assura que cela ne faisait rien et sourit respectueusement. La princesse, donnant des explications au cocher, comme eût fait une espèce de dame d'honneur de Madame Verdurin, laquelle, à cause des cambremères, n'avait pu venir à la gare, ce qu'elle faisait du reste rarement, me prit, ainsi que Brichot, avec elle dans une des voitures. Dans l'autre, montèrent le docteur, sa niette et Ski. Le cocher, bien que tout jeune, était le premier cocher des Verdurin, le seul qui fût vraiment cocher en titre. Il leur faisait faire, dans le jour, toutes les promenades, car il connaissait tous les chemins, et le soir, aller chercher et reconduire ensuite les fidèles. Il était accompagné d'extras, qu'il choisissait, en cas de nécessité. C'était un excellent garçon, sobre et adroit, mais avec une de ces figures mélancoliques, où le regard, trop fixe, signifie qu'on se fait pour en rien de l'habile, même des idées noires. Mais il était en ce moment fort heureux, car il avait réussi à placer son frère, autre excellente patte d'homme, chez les Verdurin. Nous traversâmes d'abord Deauville. Des mamelons herbus y descendaient jusqu'à la mer, en ample pâté, auquel la saturation de l'humidité et du sel donnent une épaisseur, un moelleux, une vivacité de ton extrême. Les îlots et les découpures de Rivebelle, beaucoup plus rapprochés ici qu'à Balbec, donnaient à cette partie de la mer l'aspect nouveau pour moi d'un plan en relief. Nous passâmes devant de petits chalets loués presque tous par des peintres. Nous prîmes un sentier où des vaches en liberté, aussi effrayées que nos chevaux, nous barrèrent 10 minutes le passage. Et nous nous engageâmes dans la route de la corniche. « Mais, par les dieux immortels !» demanda tout à coup Brichot. « Revenons à ce pauvre de chambre. Croyez-vous que Madame Verdurin sache ? Lui a-t-on dit ?» Madame Verdurin, comme presque tous les gens du monde, justement parce qu'elle avait besoin de la société des autres, ne pensait plus un seul jour à eux après qu'étant mort. Il ne pouvait plus venir au mercredi, ni au samedi, ni dîner en robe de chambre. Et on ne pouvait pas dire du petit clan, image en cela de tous les salons, qu'il se composait de plus de morts que de vivants, vu que, dès qu'on était mort, c'est comme si on n'avait jamais existé. Mais pour éviter l'ennui d'avoir à parler des défunts, voire de suspendre les dîners, chose impossible à la patronne, à cause d'un deuil, M. Verdurin feignait que la mort des fidèles affecta tellement sa femme que, dans l'intérêt de sa santé, il ne fallait pas en parler. D'ailleurs, et peut-être justement parce que la mort des autres lui semblait un accident si définitif et si vulgaire, la pensée de la sienne propre lui faisait horreur, et il fuyait toute réflexion pouvant s'y rapporter. Quant à Brichot, comme il était très brave homme et parfaitement dupe de ce que M. Verdurin disait de sa femme, il redoutait pour son amie les émotions d'un pareil chagrin. « Oui, elle sait tout depuis ce matin, » dit la princesse. « On n'a pas pu lui cacher. »« Ah, mille tonnerres de Zeus !» s'écria Brichot. « Ah, ça a dû être un coup terrible, un ami de 25 ans. En voilà un qui était des nôtres. » Évidemment, évidemment. Que voulez-vous ? Dit Cottard. Ce sont des circonstances toujours pénibles. Mais Madame Verdurin est une femme forte. C'est une cérébrale, encore plus qu'une émotive. Je ne suis pas tout à fait de l'avis du docteur, dit la princesse, à qui décidément son parler rapide, son accent murmuré, donnait l'air à la fois boudeur et mutin. Madame Verdurin, sous une apparence froide, cache des trésors de sensibilité. Monsieur Verdurin m'a dit qu'il avait eu beaucoup de peine à l'empêcher d'aller à Paris pour la cérémonie. Il a été obligé de lui faire croire que tout se ferait à la campagne. Ah, diable, elle voulait aller à Paris ? Mais je sais bien que c'est une femme de cœur. peut-être de trop de cœur même. Pauvre de chambre. Comme le disait Madame Verdurin, il n'y a pas deux mois. À côté de lui, planté, Paderewski, Rissler même, rien ne tient. Ah, il a pu dire plus justement que « Ce m'as-tu vu de Néron, qui a trouvé le moyen de rouler la science allemande elle-même. Qualis artifex pereo. » Mais lui, du moins, de chambre, a dû mourir dans l'accomplissement du sacerdoce, en odeur de dévotion beethovenienne. Et bravement, je n'en doute pas. En bonne justice, cet officiant de la musique allemande aurait mérité de trépasser en célébrant la messe en ré. Mais il était, au demeurant, homme à accueillir la camarde avec un trille. Car cet exécutant de génie retrouvait parfois, dans son ascendance de champenois parisianisé, des crâneries et des élégances de garde française. De la hauteur où nous étions déjà, la mer n'apparaissait plus, ainsi que de Balbec, pareille aux ondulations de montagnes soulevées, mais, au contraire, comme apparaît d'un pic ou d'une route qui contourne la montagne, un glacier bleuâtre ou une plaine éblouissante située à une moindre altitude. Le déchiquetage des remous y semblait immobilisé et avoir dessiné pour toujours leur cercle concentrique. Les mailles même de la mer, qui changeaient insensiblement de couleur, prenaient vers le fond de la baie, où se creusait un estuaire, la blancheur bleue d'un lait, où de petits bacs noirs qui n'avançaient pas semblaient empêtrés comme des mouches. Il ne me semblait pas qu'on pût découvrir de nulle part un tableau plus vaste. Mais à chaque tournant, une partie nouvelle s'y ajoutait. Et quand nous arrivâmes à l'octroi de Deauville, l'éperon de falaise qui nous avait caché jusque-là une moitié de la baie rentra. Et je vis tout à coup, à ma gauche, un golfe aussi profond que celui que j'avais eu jusque-là devant moi, mais dont il changeait les proportions et doublait la beauté. L'air, à ce point si élevé, devenait d'une vivacité et d'une pureté qui m'enivraient. J'aimais les Verdurin. Qu'ils nous eussent envoyé une voiture me semblait d'une bonté attendrissante. J'aurais voulu embrasser la princesse. Je lui dis que je n'avais jamais rien vu d'aussi beau. Elle fit profession d'aimer aussi ce pays plus que tout autre. Mais je sentais bien que, pour elle comme pour les Verdurin, la grande affaire était non de le contempler en touriste, mais d'y faire de bons repas, d'y recevoir une société qui leur plaisait, d'y écrire des lettres, d'y lire, bref, d'y vivre, laissant passivement sa beauté les baigner plutôt qu'ils n'en faisaient l'objet de leurs préoccupations. De l'octroi, la voiture s'étant arrêtée pour un instant à une telle hauteur au-dessus de la mer que, comme d'un sommet, la vue du gouffre bleuâtre donnait presque le vertige. J'ouvris le carreau. Le bruit distinctement perçu de chaque flot qui se brisait avait, dans sa douceur et dans sa netteté, quelque chose de sublime. N'était-il pas comme un indice de mensuration qui, renversant nos impressions habituelles, nous montre que les distances verticales peuvent être assimilées aux distances horizontales, au contraire de la représentation que notre esprit s'en fait d'habitude, et que, rapprochant ainsi de nous le ciel, elles ne sont pas grandes, qu'elles sont même moins grandes pour un bruit qui les franchit, comme faisait celui de ces petits flots, car le milieu qu'il a à traverser est plus pur. Et en effet, si on reculait seulement de 2 mètres en arrière de l'octroi, on ne distinguait plus ce bruit de vagues auquel 200 mètres de falaise n'avait pas enlevé sa délicate, minutieuse et douce précision. Je me disais que ma grand-mère aurait eu pour lui cette admiration que lui inspiraient toutes les manifestations de la nature ou de l'art, dans la simplicité desquelles on lit la grandeur. Mon exaltation était à son comble et soulevait tout ce qui m'entourait. J'étais attendri que les Verdurin nous eussent envoyés chercher à la gare. Je le dis à la princesse, qui parut trouver que j'exagérais beaucoup une si simple politesse. Je sais qu'elle avoua plus tard à Cottard qu'elle me trouvait bien enthousiaste. Il lui répondit que j'étais trop émotif et que j'aurais eu besoin de calmant et de faire du tricot. Je faisais remarquer à la princesse chaque arbre, chaque petite maison croulant sous ses roses. Je lui faisais tout admirer. J'aurais voulu la serrer elle-même contre mon cœur. Elle me dit qu'elle voyait que j'étais douée pour la peinture, que je devrais dessiner, qu'elle était surprise qu'on ne me l'eût pas encore dit. Et elle confessa qu'en effet ce pays était pittoresque. Nous traversâmes, perchés sur la hauteur, le petit village d'Anglequeville. Angleberti Villa, nous dit Brichot. Mais êtes-vous bien sûr que le dîner de ce soir a lieu, malgré la mort de deux chambres, princesse ? Ajouta-t-il sans réfléchir que la venue à la gare des voitures dans lesquelles nous étions était déjà une réponse. « Oui, dit la princesse, monsieur Verdurin a tenu à ce qu'il ne soit pas remis, justement pour empêcher sa femme de penser. Et puis, après tant d'années qu'elle n'a jamais manqué de recevoir un mercredi, ce changement dans ses habitudes aurait pu l'impressionner. Elle est très nerveuse ces temps-ci. Monsieur Verdurin était particulièrement heureux que vous veniez dîner ce soir. » Parce qu'il savait que ce serait une grande distraction pour madame Verdurin, dit la princesse, oubliant sa feinte de ne pas avoir entendu parler de moi. Je crois que vous ferez bien de ne parler de rien devant madame Verdurin, ajouta la princesse. Ah, vous faites bien de me le dire, répondit naïvement Brichot. Je transmettrai la recommandation à Cottard. La voiture s'arrêta un instant. Elle repartit, mais le bruit que faisaient les roues dans le village avait cessé. Nous étions entrés dans l'allée d'honneur de la Raspelière, où M. Verdurin nous attendait au perron. « J'ai bien fait de mettre un smoking, » dit-il, en constatant avec plaisir que les fidèles avaient le leur. « Puisque j'ai des hommes si chics, » Et comme je m'excusais de mon veston, « Mais voyons, c'est parfait. Ici, ce sont des dîners de camarades. Je vous offrirais bien de vous prêter un de mes smokings, mais il ne vous irait pas. » Le shake-hand, plein d'émotion, que, en pénétrant dans le vestibule de la Raspelière et en manière de condoléance pour la mort du pianiste, Brichot donna au patron, ne provoqua de la part de celui-ci aucun commentaire. Je lui dis mon admiration pour ce pays. « Ah, tant mieux! Et vous n'avez rien vu, nous vous le montrerons. Pourquoi ne viendriez-vous pas habiter quelques semaines ici? L'air est excellent !» Brichot craignait que sa poignée de main n'eût pas été comprise. « Eh bien, ce pauvre de chambre, » dit-il, mais à mi-voix, dans la crainte que madame Verdurin ne fût pas loin. « C'est affreux !» répondit allègrement M. Verdurin. « Si jeune !» reprit Brichot. Agacé de s'attarder à ses inutilités, M. Verdurin répliqua d'un ton pressé et avec un gémissement suraigu, non de chagrin, mais d'impatience irritée. « Eh bien, oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Nous n'y pouvons rien. Ce ne sont pas nos paroles qui le ressusciteront, n'est-ce pas ?» Et la douceur lui revenant avec la jovialité. « Allons, mon brave Brichot, posez vite vos affaires. Nous avons une bouillabaisse qui n'attend pas. Surtout, au nom du ciel, n'allez pas parler de deux chambres à madame Verdurin. Vous savez qu'elle cache beaucoup ce qu'elle ressent, mais elle a une véritable maladie de la sensibilité. Non, mais je vous jure, quand elle a appris que deux chambres étaient morts, elle a presque pleuré. » dit monsieur Verdurin d'un ton profondément ironique. À l'entendre, on aurait dit qu'il fallait une espèce de démence pour regretter un ami de 30 ans. Et d'autre part, on devinait que l'union perpétuelle de M. Verdurin avec sa femme n'allait pas, de la part de celui-ci, sans qu'il la jugeât toujours et qu'elle l'agaçât souvent.
Si vous lui en parlez, elle va encore se rendre malade. C'est déplorable. 3 semaines après sa bronchite. Dans ces cas-là, c'est moi qui suis le garde-malade. Vous comprenez que je sors d'en prendre. Affligez-vous sur le sort de 2 chambres dans votre cœur, tant que vous voudrez. Pensez-y, mais n'en parlez pas. J'aimais bien 2 chambres, mais vous ne pouvez pas m'en vouloir d'aimer encore plus ma femme. Tenez, voilà Cottard, vous allez pouvoir lui demander.
Et en effet, il savait qu'un médecin de la famille sait rendre bien des petits services, comme de prescrire, par exemple, qu'il ne faut pas avoir de chagrin. Cottard, docile, avait dit à la patronne « Bouleversez-vous comme ça, et vous me ferez demain 39 de fièvre. » Comme il aurait dit à la cuisinière « Vous me ferez demain du riz de veau. » La médecine, faute de guérir, s'occupe à changer le sens des verbes et des pronoms. Monsieur Verdurin fut heureux de constater que sa niette, malgré les rebuffades que celui-ci avait essuyées l'avant-veille, n'avait pas déserté le petit noyau. En effet, Madame Verdurin et son mari avaient contracté, dans l'oisiveté, des instincts cruels, à qui les grandes occasions, trop rares, ne suffisaient plus. On avait bien pu brouiller Odette avec Swann, Brichot avec sa maîtresse. On recommencerait avec d'autres, c'était entendu. Mais l'occasion ne s'en présentait pas tous les jours. Tandis que, grâce à sa sensibilité frémissante, à sa timidité craintive et vite affolée, sa niette leur offrait un souffre-douleur quotidien. Aussi, de peur qu'il lâchât, avait-on soin de l'inviter avec des paroles aimables et persuasives, comme en ont au lycée les vétérans, au régiment les anciens, pour un bleu qu'on veut amadouer, afin de pouvoir s'en saisir, à seule fin alors de le chatouiller et de lui faire des brimades quand il ne pourra plus s'échapper. « Surtout, rappela Cottard à Brichot, qui n'avait pas entendu M. Verdurin, motus devant Madame Verdurin. « Soyez sans crainte, ô Cottard, vous avez affaire à un sage, comme dit Théocrite. D'ailleurs, M. Verdurin a raison, à quoi servent nos plaintes » ajouta-t-il. Car, capable d'assimiler des formes verbales et les idées qu'elles amenaient en lui, mais n'ayant pas de finesse, il avait admiré dans les paroles de M. Verdurin le plus courageux stoïcisme. N'importe, c'est un grand talent qui disparaît. Comment, vous parlez encore de 2 chambres ? Dit M. Verdurin qui nous avait précédés et qui, voyant que nous ne le suivions pas, était revenu en arrière. « Écoutez, dit-il à Brichot, il ne faut d'exagération en rien. Ce n'est pas une raison parce qu'il est mort pour en faire un génie qu'il n'était pas. Il jouait bien, c'est entendu. Il était surtout bien encadré ici. Transplanté, il n'existait plus. Ma femme s'en était engouée et avait fait sa réputation, vous savez comme elle est. Je dirais plus, dans l'intérêt même de sa réputation, il est mort au bon moment, à point. Comme les demoiselles de Caen, grillées selon les recettes incomparables de Pampille, vont l'être. J'espère, à moins que vous ne vous éternisiez par vos jérémiades dans cette casbah ouverte à tous les vents. Vous ne voulez tout de même pas nous faire crever tous parce que 2 chambres est mort, et quand, depuis 1 an, il était obligé de faire des gammes avant de donner un concert pour retrouver momentanément, bien momentanément, sa souplesse. Du reste, vous allez entendre ce soir, ou du moins rencontrer, car ce matin-là délaisse trop souvent après dîner l'art pour les cartes. Quelqu'un qui est un autre artiste que 2 chambres, un petit que ma femme a découvert, comme elle avait découvert 2 chambres et Paderewski, et le reste. Morel. Il n'est pas encore arrivé, ce bougre-là. Je vais être obligé d'envoyer une voiture au dernier train. Il vient avec un vieil ami de sa famille qui l'a retrouvé et qui l'embête à crever, mais sans qui il aurait été obligé, pour ne pas avoir de plainte de son père, de rester sans cela à Doncières à lui tenir compagnie. Le baron de Charlus. Les fidèles entrèrent. Monsieur Verdurin, resté en arrière avec moi pendant que j'ôtais mes affaires, me prit le bras en plaisantant, comme fait à un dîner un maître de maison qui n'a pas d'invité à vous donner à conduire. « Vous avez fait bon voyage ?»«
Oui, monsieur Brichot m'a appris des choses qui m'ont beaucoup intéressé, »
dis-je en pensant aux étymologies et parce que j'avais entendu dire que les Verdurin admiraient beaucoup Brichot.
« Cela m'aurait étonné qu'il ne vous eût rien appris, » me dit monsieur Verdurin. « C'est un homme si effacé, qui parle si peu des choses qu'il sait. »
Ce compliment ne me parut pas très juste. « Il a l'air charmant, » dis-je.
« Exquis, délicieux, pas pion pour un sou, fantaisiste, léger, ma femme l'adore, moi aussi. »
répondit M. Verdurin sur un ton d'exagération et de réciter une leçon. Alors seulement, je compris que ce qu'il m'avait dit de Brichot était ironique. Et je me demandais si M. Verdurin, depuis le temps lointain dont j'avais entendu parler, n'avait pas secoué la tutelle de sa femme. Le sculpteur fut très étonné d'apprendre que les Verdurin consentaient à recevoir M. de Charlus. Alors que dans le faubourg Saint-Germain, où M. de Charlus était si connu, on ne parlait jamais de ses mœurs, ignoré du plus grand nombre, objet de doute pour d'autres, qui croyaient plutôt à des amitiés exaltées, mais platoniques, à des imprudences, et enfin soigneusement dissimulées par les seuls renseignés, qui haussaient les épaules quand quelque malveillante galardon risquait une insinuation. Ses mœurs, connues à peine de quelques intimes, étaient au contraire journellement décriées, loin du milieu où il vivait, comme certains coups de canon qu'on n'entend qu'après l'interférence d'une zone silencieuse. D'ailleurs, dans ces milieux bourgeois et artistes, où il passait pour l'incarnation même de l'inversion, sa grande situation mondaine, sa haute origine, était entièrement ignorée, par un phénomène analogue à celui qui, dans le peuple roumain, fait que le nom de Ronsard est connu comme celui d'un grand seigneur, tandis que son œuvre poétique y est inconnue. Bien plus, la noblesse de Ronsard repose, en Roumanie, sur une erreur. De même, si dans le monde des peintres, des comédiens, M. de Charlus avait si mauvaise réputation, cela tenait à ce qu'on le confondait avec un comte Leblois de Charlus, qui n'avait même pas la moindre parenté avec lui, ou extrêmement lointaine, et qui avait été arrêté, peut-être par erreur, dans une descente de police restée fameuse. En somme, toutes les histoires qu'on racontait sur M. de Charlus s'appliquaient aux faux. Beaucoup de professionnels juraient avoir eu des relations avec M. de Charlus et étaient de bonne foi, croyant que le faux Charlus était le vrai, et le faux peut-être favorisant, moitié par ostentation de noblesse, moitié par dissimulation de vice, une confusion qui, pour le vrai, le baron que nous connaissons, fut longtemps préjudiciable, et ensuite, quand il eut glissé sur sa pente, devint commode, car à lui aussi elle permit de dire « Ce n'est pas moi ». Actuellement, en effet, ce n'était pas de lui qu'on parlait. Enfin, ce qui ajoutait à la fausseté des commentaires d'un fait vrai, les goûts du baron, il avait été l'ami intime et parfaitement pur d'un auteur qui, dans le monde des théâtres, avait, on ne sait pourquoi, cette réputation et ne la méritait nullement. Quand on les apercevait à une première ensemble, on disait « Vous savez ?» De même qu'on croyait que la duchesse de Guermantes avait des relations immorales avec la princesse de Parme. Légende indestructible, car elle ne se serait évanouie qu'à une proximité de ces deux grandes dames où les gens qui la répétaient n'atteindrait vraisemblablement jamais qu'en les lorgnant au théâtre, et en les calomniant auprès du titulaire du fauteuil voisin. Des mœurs de M. de Charlus, le sculpteur concluait, avec d'autant moins d'hésitation, que la situation mondaine du baron devait être aussi mauvaise, qu'il ne possédait sur la famille à laquelle appartenait M. de Charlus, sur son titre, sur son nom, aucune espèce de renseignement. De même que Cottard croyait que tout le monde sait que le titre de docteur en médecine n'est rien, celui d'interne des hôpitaux quelque chose, les gens du monde se trompent en se figurant que tout le monde possède sur l'importance sociale de leur nom les mêmes notions qu'eux-mêmes et les personnes de leur milieu. Le prince d'Agrigente passait pour un rasta aux yeux d'un chasseur de cercle à qui il devait 25 louis et ne reprenait son importance que dans le faubourg Saint-Germain où il avait 3 sœurs duchesses, car ce ne sont pas sur les gens modestes aux yeux de qui il compte peu, mais sur les gens brillants au courant de ce qu'il est que fait quelque effet le grand seigneur. Monsieur de Charlus allait, du reste, pouvoir se rendre compte, dès le soir même, que le patron avait, sur les plus illustres familles ducales, des notions peu approfondies. Persuadé que les Verdurin allaient faire un pas de clair en laissant s'introduire dans leur salon si sélect un individu taré, le sculpteur crut devoir prendre à part la patronne. « Vous faites entièrement erreur. D'ailleurs, je ne crois jamais ces choses-là. Et puis, quand ce serait vrai, je vous dirais que ce ne serait pas très compromettant pour moi. » lui répondit Madame Verdurin, furieuse, car Morel étant le principal élément des mercredis, elle tenait avant tout à ne pas le mécontenter. Quant à Cottard, il ne put donner d'avis, car il avait demandé à monter un instant faire une petite commission dans le Buen Retiro, et à écrire ensuite dans la chambre de M. Verdurin une lettre très pressée pour un malade. Un grand éditeur de Paris, venu en visite, et qui avait pensé qu'on le retiendrait, s'en alla brutalement, avec rapidité, comprenant qu'il n'était pas assez élégant pour le petit clan. C'était un homme grand et fort, très brun, studieux, avec quelque chose de tranchant. Il avait l'air d'un couteau à papier en ébène. Madame Verdurin, qui, pour nous recevoir dans son immense salon où des trophées de graminées, de coquelicots, de fleurs des champs, cueillis le jour même, alternaient avec le même motif peint en camaïeu, 2 siècles auparavant, par un artiste d'un goût exquis, s'était levée un instant d'une partie qu'elle faisait avec un vieil ami, nous demanda la permission de la finir en 2 minutes et tout en causant avec nous. D'ailleurs, ce que je lui dis de mes impressions ne lui fut qu'à demi agréable. D'abord, j'étais scandalisée de voir qu'elle et son mari rentraient tous les jours longtemps avant l'heure de ses couchers de soleil, qui passaient pour si beau vu de cette falaise, plus encore de la terrasse de la Raspelière, et pour lesquels j'aurais fait des lieux. « Oui, c'est incomparable, » dit légèrement Madame Verdurin, en jetant un coup d'œil sur les immenses croisées qui faisaient porte vitrée. « Nous avons beau voir cela tout le temps, nous ne nous en lassons pas. » Et elle ramena ses regards vers ses cartes. Or, mon enthousiasme même me rendait exigeant. Je me plaignais de ne pas voir du salon les rochers de Darnetal, qu'elle Stier m'avait dit adorables à ce moment où ils réfractaient tant de couleurs. « Ah, vous ne pouvez pas les voir d'ici, il faudrait aller au bout du parc, à la vue de la baie, du banc qui est là-bas, vous embrassez tout le panorama. Mais vous ne pouvez pas y aller tout seul, vous vous perdriez. Je vais vous y conduire si vous voulez, » ajouta-t-elle mollement. « Mais non, voyons, tu n'as pas assez des douleurs que tu as prises l'autre jour, tu veux en prendre de nouvelles ? Il reviendra, il verra la vue de la baie une autre fois. » Je n'insistai pas, et je compris qu'il suffisait aux Verdurin de savoir que ce soleil couchant était, jusque dans leur salon ou dans leur salle à manger, comme une magnifique peinture, comme un précieux émail japonais. justifiant le prix élevé auquel il louait la raspelière toute meublée, mais vers lequel il levait rarement les yeux. Leur grande affaire, ici, était de vivre agréablement, de se promener, de bien manger, de causer, de recevoir d'agréables amis, à qui ils faisaient faire d'amusantes parties de billard, de bons repas, de joyeux goûters. Je vis cependant plus tard avec quelle intelligence ils avaient appris à connaître ce pays, faisant faire à leurs hôtes des promenades aussi inédites que la musique qu'ils leur faisaient écouter. Le rôle que les fleurs de la raspelière, les chemins le long de la mer, les vieilles maisons, les églises inconnues, jouaient dans la vie de M. Verdurin était si grand que ceux qui ne le voyaient qu'à Paris et qui, eux, remplaçaient la vie au bord de la mer et à la campagne par des luxes citadins, pouvaient à peine comprendre l'idée que lui-même se faisait de sa propre vie et l'importance que ses joies lui donnaient à ses propres yeux. Cette importance était encore accrue du fait que les Verdurin étaient persuadés que la raspelière, qu'ils comptaient acheter, était une propriété unique au monde. Cette supériorité que leur amour-propre leur faisait attribuer à la raspelière justifia à leurs yeux mon enthousiasme, qui, sans cela, les eût agacés un peu, à cause des déceptions qu'ils comportaient, comme celles que l'audition de la Berma m'avait jadis causées, et dont je leur faisais l'aveu sincère.
« J'entends la voiture qui revient !»
murmura tout à coup la patronne. Disons en un mot que Madame Verdurin, en dehors même des changements inévitables de l'âge, ne ressemblait plus à ce qu'elle était au temps où Swann et Odette écoutaient chez elle la petite phrase. Même quand on la jouait, elle n'était plus obligée à l'air exténué d'admiration qu'elle prenait autrefois, car celui-ci était devenu sa figure. Sous l'action des innombrables névralgies que la musique de Bach, de Wagner, de Vinteuil, de Debussy lui avait occasionnées, le front de Madame Verdurin avait pris des proportions énormes, comme les membres qu'un rhumatisme finit par déformer. Ses tempes, pareilles à deux belles sphères brûlantes, endolories et laiteuses, où roule immortellement l'harmonie, rejetaient de chaque côté des mèches argentées et proclamaient, pour le compte de la patronne, sans que celle-ci eût besoin de parler, « Je sais ce qui m'attend ce soir. » Ses traits ne prenaient plus la peine de formuler successivement des impressions esthétiques trop fortes, car ils étaient eux-mêmes comme leur expression permanente dans un visage ravagé et superbe. Cette attitude de résignation aux souffrances toujours prochaines infligées par le beau et du courage qu'il y avait eu à mettre une robe quand on relevait à peine de la dernière sonate faisait que Madame Verdurin, même pour écouter la plus cruelle musique, gardait un visage dédaigneusement impassible et se cachait même pour avaler les deux cuillerées d'aspirine.
« Ah oui, les voici !»
s'écria M. Verdurin avec soulagement, en voyant la porte s'ouvrir sur Morel, suivi de M. de Charlus. Celui-ci, pour qui dîner chez les Verdurin n'était nullement allé dans le monde, mais dans un mauvais lieu, était intimidé comme un collégien qui entre pour la première fois dans une maison publique et a mille respects pour la patronne. Aussi, le désir habituel qu'avait M. de Charlus de paraître viril et froid fut-il dominé, quand il apparut dans la porte ouverte, par ces idées de politesse traditionnelle qui se réveillent dès que la timidité détruit une attitude factice et fait appel aux ressources de l'inconscient. Quand c'est dans un Charlus, qu'il soit d'ailleurs noble ou bourgeois, qu'agit un tel sentiment de politesse instinctive et atavique envers des inconnus, c'est toujours l'âme d'une parente du sexe féminin, auxiliatrice comme une déesse ou incarnée comme un double, qui se charge de l'introduire dans un salon nouveau et de modeler son attitude jusqu'à ce qu'il soit arrivé devant la maîtresse de maison. Tel jeune peintre, élevé par une sainte cousine protestante, entrera la tête oblique et chevrotante, les yeux au ciel, les mains cramponnées à un manchon invisible, dont la forme évoquée et la présence réelle et tutélaire aideront l'artiste intimidé à franchir, sans agoraphobie, l'espace creusé d'abîme qui va de l'antichambre au petit salon. Ainsi, la pieuse parente, dont le souvenir le guide aujourd'hui, entrait il y a bien des années, et d'un air si gémissant qu'on se demandait quel malheur elle venait annoncer. Quand, à ses premières paroles, on comprenait, comme maintenant pour le peintre, qu'elle venait faire une visite de digestion. En vertu de cette même loi, qui veut que la vie, dans l'intérêt de l'acte encore inaccompli, fasse servir, utilise, dénature dans une perpétuelle prostitution les legs les plus respectables, parfois les plus saints, quelquefois seulement les plus innocents du passé, et bien qu'elle engendrât alors un aspect différent, celui des neveux de Madame Cottard qui affligeait sa famille par ses manières efféminées et ses fréquentations, faisait toujours une entrée joyeuse, comme s'il venait vous faire une surprise ou vous annoncer un héritage, illuminé d'un bonheur dont il eût été vain de lui demander la cause, qui tenait à son hérédité inconsciente et à son sexe déplacé. Il marchait sur les pointes, était sans doute lui-même étonné de ne pas tenir à la main un carnet de cartes de visite, tendait la main en ouvrant la bouche en cœur, comme il avait vu sa tante le faire. Et son seul regard inquiet était pour la glace, où il semblait vouloir vérifier, bien qu'il fût nu-tête, si son chapeau, comme avait un jour demandé Madame Cottard à Swann, n'était pas de travers. Quant à M. de Charlus, à qui la société où il avait vécu fournissait, à cette minute critique, des exemples différents, d'autres arabesques d'amabilité, et enfin la maxime qu'on doit savoir dans certains cas, pour de simples petits bourgeois, mettre au jour et faire servir ses grâces les plus rares et habituellement gardées en réserve, c'est en se trémoussant, avec mièvrerie et la même ampleur dont un enjuponnement eût élargi et gêné ses dandinements, qu'il se dirigea vers Madame Verdurin, avec un air si flatté et si honoré qu'on eût dit qu'être présenté chez elle était pour lui une suprême faveur. Son visage à demi incliné, où la satisfaction le disputait au comme il faut, se plissait de petites rides d'affabilité. On aurait cru voir s'avancer Madame de Marsante, tant ressortait à ce moment la femme qu'une erreur de la nature avait mise dans le corps de Monsieur de Charlus. Certes, cette erreur, le baron avait durement peiné pour la dissimuler et prendre une apparence masculine. Mais à peine y était-il parvenu que, ayant pendant le même temps gardé les mêmes goûts, cette habitude de sentir en femme lui donnait une nouvelle apparence féminine, née celle-là non de l'hérédité, mais de la vie individuelle. Et comme il arrivait peu à peu à penser, même les choses sociales, au féminin, et cela sans s'en apercevoir, car ce n'est pas qu'à force de mentir aux autres, mais aussi de se mentir à soi-même, qu'on cesse de s'apercevoir qu'on ment, bien qu'on eût demandé à son corps de rendre manifeste, au moment où il entrait chez les Verdurin, toute la courtoisie d'un grand seigneur. Ce corps, qui avait bien compris ce que M. de Charlus avait cessé d'entendre, déploya, au point que le baron eût mérité l'épithète de « ladylike », toutes les séductions d'une grande dame. Au reste, peut-on séparer entièrement l'aspect de M. de Charlus du fait que les fils, n'ayant pas toujours la ressemblance paternelle, même sans être invertis et en recherchant des femmes, consomment dans leur visage la profanation de leur mère? Mais laissons ici ce qui mériterait un chapitre à part, les mères profanées. Bien que d'autres raisons présidassent à cette transformation de M. de Charlus et que des ferments purement physiques fissent travailler chez lui la matière et passer peu à peu son corps dans la catégorie des corps de femmes. Pourtant, le changement que nous marquons ici était d'origine spirituelle. À force de se croire malade, on le devient, on maigrit, on n'a plus la force de se lever, on a des entérites nerveuses. À force de penser tendrement aux hommes, on devient femme, et une robe postiche entrave vos pas. L'idée fixe peut modifier, aussi bien que dans d'autres cas, la santé, dans cela, le sexe. Morel, qui le suivait, vint me dire bonjour. Dès ces moments-là, à cause d'un double changement qui se produisit en lui, il me donna, hélas, je ne suis pas assez tôt en tenir compte, une mauvaise impression. Voici pourquoi. J'ai dit que Morel, échappé de la servitude de son père, se complaisait en général à une familiarité fort dédaigneuse. Il m'avait parlé, le jour où il m'avait apporté les photographies, sans même me dire une seule fois « monsieur », me traitant de haut en bas. Quelle fut ma surprise chez Madame Verdurin de le voir s'incliner très bas devant moi, et devant moi seule, et d'entendre, avant même qu'il eût prononcé d'autres paroles, les mots de respect, de très respectueux, ces mots que je croyais impossibles à amener sous sa plume ou sur ses lèvres, à moi adressés. J'eus aussitôt l'impression qu'il avait quelque chose à me demander. Me prenant à part au bout d'une minute, « Monsieur me rendrait bien grand service, » me dit-il, allant cette fois jusqu'à me parler à la troisième personne, en cachant entièrement à Madame Verdurin et à ses invités le genre de profession que mon père a exercé chez son oncle. Il vaudrait mieux dire qu'il était, dans votre famille, l'intendant de domaines si vastes que cela le faisait presque l'égal de vos parents. » La demande de Morel me contrariait infiniment. Non pas en ce qu'elle me forçait à grandir la situation de son père, ce qui m'était tout à fait égal, mais la fortune au moins apparente du mien, ce que je trouvais ridicule. Mais son air était si malheureux, si urgent, que je ne refusais pas. « Non, avant dîner, » dit-il d'un ton suppliant, « monsieur a mille prétextes pour prendre à part Madame Verdurin. » C'est ce que je fis en effet, en tâchant de rehausser de mon mieux l'éclat du père de Morel, sans trop exagérer le train ni les « bien au soleil » de mes parents. Cela passa comme une lettre à la poste, malgré l'étonnement de Madame Verdurin, qui avait connu vaguement mon grand-père. Et comme elle n'avait pas de tact, haïssait les familles, se dissolvant du petit noyau, après m'avoir dit qu'elle avait autrefois aperçu mon arrière-grand-père et m'en avoir parlé comme de quelqu'un d'à peu près idiot, qui n'eût rien compris au petit groupe, et qui, selon son expression, n'en était pas, elle me dit « C'est du reste si ennuyeux, les familles, on n'aspire qu'à en sortir. » Et aussitôt, elle me raconta sur le père de mon grand-père ce trait que j'ignorais, bien qu'à la maison j'eusse soupçonné. Je ne l'avais pas connu, mais on parlait beaucoup de lui. Sa rare avarice, opposée à la générosité un peu trop fastueuse de mon grand-oncle, l'ami de la dame en rose et le patron du père de Morel. Du moment que vos grands-parents avaient un intendant si chic, cela prouve qu'il y a des gens de toutes les couleurs dans les familles. Le père de votre grand-père était si avare que, presque gâteux à la fin de sa vie, entre nous il n'a jamais été bien fort, vous les rachetez tous. Il ne se résignait pas à dépenser 3 sous pour son omnibus, de sorte qu'on avait été obligé de le faire suivre, de payer séparément le conducteur et de faire croire au vieux Grigou que son ami, monsieur de Persigny, ministre d'État, avait obtenu qu'il circulât pour rien dans les omnibus. Du reste, je suis très contente que le père de notre Morel ait été si bien. J'avais compris qu'il était professeur de lycée. Ça ne fait rien, j'avais mal compris.
Mais c'est de peu d'importance, car je vous dirai qu'ici, nous n'apprécions que la valeur propre, la contribution personnelle, ce que j'appelle la participation. Pourvu qu'on soit d'art, pourvu en un mot qu'on soit de la confrérie, le reste importe peu. » La façon dont Morel en était, autant que j'ai pu l'apprendre, était qu'il aimait assez les femmes et les hommes pour faire plaisir à chaque sexe, à l'aide de ce qu'il avait expérimenté sur l'autre. C'est ce qu'on verra plus tard. Mais ce qui est essentiel à dire ici, c'est que, dès que je lui eus donné ma parole d'intervenir auprès de Madame Verdurin, dès que je l'eus fait surtout, et sans retour possible en arrière, le respect de Morel à mon égard s'envola comme par enchantement. Les formules respectueuses disparurent, et même pendant quelque temps il m'évita, s'arrangeant, pour avoir l'air de me dédaigner, de sorte que, si Madame Verdurin voulait que je lui dise quelque chose, lui demandasse tel morceau de musique, il continuait à parler avec un fidèle, puis passait à un autre, changeait de place si j'allais à lui. On était obligé de lui dire jusqu'à 3 ou 4 fois que je lui avais adressé la parole. Après quoi, il me répondait, l'air contraint, brièvement, à moins que nous ne fussions seuls. Dans ce cas-là, il était expansif, amical, car il avait des parties de caractère charmantes. Je n'en conclus pas moins de cette première soirée que sa nature devait être vile, qu'il ne reculait quand il le fallait devant aucune platitude, ignorait la reconnaissance, en quoi il ressemblait au commun des hommes. Mais comme j'avais en moi un peu de ma grand-mère et me plaisais à la diversité des hommes sans rien attendre d'eux ou leur en vouloir, je négligeais sa bassesse. Je me plus à sa gaieté quand cela se présenta, même à ce que je crois avoir été une sincère amitié de sa part, quand, ayant fait tout le tour de ses fausses connaissances de la nature humaine, il s'aperçut, par à coup, car il avait d'étranges retours à sa sauvagerie primitive et aveugle, que ma douceur avec lui était désintéressée, que mon indulgence ne venait pas d'un manque de clairvoyance, mais de ce qu'il appela bonté. Et surtout, je m'enchantais à son art, qui n'était guère qu'une virtuosité admirable, mais me faisait, sans qu'il fût au sens intellectuel du mot un vrai musicien, réentendre ou connaître tant de belles musiques. D'ailleurs, un manager, M. de Charlus, chez qui j'ignorais ses talents, bien que Mme de Guermantes, qui l'avait connu fort différent dans leur jeunesse, prétendit qu'il lui avait fait une sonate, peint un éventail, etc. Modeste en ce qui concernait ses vraies supériorités, mais de tout premier ordre, sut mettre cette virtuosité au service d'un sens artistique multiple et qu'il décupla. Qu'on imagine quelque artiste, purement adroit, des ballets russes, stylé, instruit, développé en tous sens par M. de Diaghilev.